J'ai dit 14 heures. L'empereur sur les 6 heures m'a fait appeler dans sa chambre. Il venait de dicter, m'a-t-il dit, un fort beau chapitre sur les droits maritimes et me parlait d'autres plans d'ouvrage. J'osais lui rappeler les 14 paragraphes dont il avait déjà eu l'idée et que j'ai déjà mentionné ailleurs. Il en a quitté, les ressouvenus avec plaisir, et assuré qu'il y viendrait certainement un jour. Il s'est mis dès là à lire et à corriger des notes précieuses qu'il avait dictées au grand maréchal sur les différences des guerres anciennes et modernes, sur l'administration des armées, leur compétition. Puis s'étant mis à causer et se lançant sur le sujet, entre autres choses, il a dit « Il n'est pas de grande action suivie qui soit en l'œuvre du hasard et de la fortune et des revendiges de la combinaison et du génie. Rarement on voit échouer les grands hommes dans leur entreprise les plus périlleuses. Regardez Alexandre César, Hannibal le Grand, Gustave et d'autres. Ils réussissent. » Toujours. Et c'est parce qu'ils ont du bonheur qu'ils deviennent aussi des grands hommes? Non, mais parce que tant des grands hommes, ils ont su maîtriser le bonheur. Quand on veut étudier les ressorts de leur succès, on est tout étonné de voir qu'ils avaient tout à fait peu obtenu. Alexandre, à peine sorti de l'enfance, conquiert avec un poignet du monde une partie du globe. Mais fut-ce de sa part une simple éruption ou façon de déluge? Non. Tout est calculé avec profondeur, exécuté avec audace, conduit avec sagesse. Alexandre se montre tout à la fois grand guerrier, grand politique, grand législateur. Malheureusement, quand il éteint le zénith de la gloire et du succès, les têtes lui tournent, les queues s'égâtent. Il avait débuté avec l'âme de Trajan. Il finit avec le cœur de Néron et les mœurs d'Héliogabale. Et l'empereur développait les campagnes d'Alexandre et je voyais le sujet sous un jeu tout nouveau. Passant ensuite à César, il disait qu'au rebut d'Alexandre, il avait commencé sa carrière fort tard et croyant dévouté par une jeunesse oisive et des plus vicieuses, il avait fini montrant l'âme le plus actif, le plus élevé. La plus belle, il pensait une des caractères les plus aimables de l'histoire. César observait-il conquérir les Gaules et les lois de sa patrie, mais aux arts. Et à la simple fortune qu'il doit second acte de cœur. Et il analysait encore les hautes faits de César comme il avait fait de ceux d'Alexandre. Et cet animal, disait-il, le plus audacieux de tout. Les plus étonnants peut-être, si hardi, si sûr, si large en toutes choses, et qui, à 26 ans, conçoit ce qui est à peine concevable, exécute ce qu'on devait tenir pour impossible, qui, renonçant à toute communication avec son pays, traverse des peuples ennemis, ou inconnu, qu'il faut attaquer et vaincre escalade les Pyrénées et les Alpes qu'on croyait insurmontables et de descendre en Italie compagnon de la moitié de son armée, la seule acquisition de son champ de bataille, les seuls droits de combattre qui occupent par queue et gouvernent cette même Italie durant 16 ans. Mais de plusieurs fois, à du droit de sa perte, la terrible et redoutable Rome, elle ne lâche sa proie. Que quand on met à profit de la leçon qu'il a donnée d'aller les combattre chez lui, croit-on qu'il n'est toute sa carrière et tant de grandes actions qu'au caprice du hasard aux faveurs de la fortune. Certes, il devait être doué d'une forte trompe d'âme et avoir une bien haute idée de sa science en guerre. Celui qui, interpellé par son jeune vainqueur, n'hésite pas à se placer bien que vaincu immédiatement après Alexandre et Pyrrhus, qu'il estime les deux premiers du métier. Tous ces grands capitaines de l'Antiquité, continuait Napoléon, et ceux qui, plus tard, ont dû marcher sur le trace, n'ont fait de grandes choses qu'en se conformant aux règles et aux principes naturels de l'art, c'est-à-dire par la justesse de combinaison et le rapport raisonné des moyens avec leurs conséquences, des efforts avec des obstacles. Ils sont réussis qu'en se conformant. Quels été d'ailleurs l'audace de leur entreprise et l'étendue de leur succès. Ils n'ont cessé de faire constamment de la guerre ou de véritable science. C'est à ce titre seul qu'ils sont nos grands modèles. Et ce n'est qu'en les imitant qu'on doit espérer en approcher. On a attribué la fortune, mais plus grande ça. Et on ne manquera pas d'inviter mes rêveurs, mes fautes, mais si j'écris mes campagnes, on sera bien étonné de voir qui est dans les deux cas, et toujours ma raison et mes facultés ne s'exerceront qu'en conformité avec le principe, comme il est à désirer que l'empereur accomplisse la pensée de Christ. Ses campagnes, quel commentaire! Que ceux de Napoléon, l'empereur continuait d'analyser de la sorte Gustave Adolphe Condé, chez qui il disait que la science semblait avoir été un instinct, la nature l'ayant produit toute sa rondeurine, qui au contraire ne s'était formée qu'avec peine et à force d'instruction. Et m'étant permis de lui dire à ce sujet qu'on avait remarqué pourtant que Turenne n'avait point formé de élèves, tandis que Condé en avait laissé plusieurs fort distingués par caprice d'oiseau, a repris Napoléon. C'est le contraire qui eût dû arriver, mais il ne dépend pas du jeu de maître de faire des bons écoliers. Encore faut-il que la nature s'y prête, là, si on se doit rencontrer son terrain. Il a continué sur Eugène, Marlborough, Vendôme, sur le grand Frédéric, qui disait avoir été sous toutes choses, tacticien par excellence et avoir eu le secret de faire des soldats de véritables machines. À son sujet, il a dit combien les sont parfois différents de ce qu'ils se sont. Savent-ils bien toujours eux-mêmes ce qu'ils sont? On voit là une remarque est-il qui au début prend la fuite devant sa propre victoire et qui tout le reste de sa carrière se montre bien certainement les plus intrépides, les plus tenaces, les plus froides des hommes. Après dîner, l'empereur, plein de son travail de jeu, dont il suit depuis quelque temps le sujet avec une espèce de plaisir, de satisfaction, a parlé jusqu'après 1 heure du matin, traitant au maître de la manière la plus ingénieuse, la plus forte et la plus lumineuse. Une foule d'objets de guerre. Il revenait sur la grande différence de la guerre des anciens avec celle des modernes. L'invention des armes de feu a tout changé, observait-il. Cette grande découverte était du reste toute à l'avantage des assaillants, bien que jusqu'ici la plupart des modernes aient soutenu le contraire. La force corporelle des anciens, observait-il encore, était en harmonie avec leurs armes offensives et défensives. Les nôtres, au contraire, celles de nos jeux, sont tout à fait hors de notre sphère. Si l'empereur laisse après lui des idées sur ces objets, son opinion sera bien précise. Il a donné ce soir sur la plupart des circonstances militaires. Il s'est élevé aux plus hautes idées et est descendu dans les plus petits détails. Il disait que la guerre ne se composait que d'accidents et que bien qu'était nous de se plier à ce principe généraux, un chef ne devait jamais perdre de vue tout ce qui pouvait le mettre à même de profiter de ces accidents. Les vulgaires appelleraient c'est la bonne heure. Et ce ne serait pourtant que la propriété du génie. Il voulait que dans l'état actuel, on donnât plus de consistance au troisième rang de l'infanterie, ou bien quand les supprimants et ils ont développé le motif, ils voulaient que l'infanterie chargée par la cavalerie tira de fortes loin sur elle au lieu de l'attendre à bout portant comme on le fait aujourd'hui. Et ils ont montré l'avantage. Ils disaient que l'infanterie et la cavalerie laissaient à elles-mêmes sans artillerie ne devaient point mener de résultats décisifs, mais qu'avec des artilleries et toutes choses d'ailleurs égales, la cavalerie devait détruire l'infanterie. Et ils développaient très lumineusement toutes ces choses. Est une foule d'autres encore. Il ajoutait que l'artillerie faisait aujourd'hui la véritable destinée des armées et des peuples, qu'on se battait à coups de canon comme à coups de poing, et qu'on battait comme à un siège, leur consistait à présent à faire converger un grand nombre de feux sur un même point, qui, la mêlée, une fois établie, c'est lui qui avait l'adresse de faire arriver subitement, et à l'insu de l'ennemi sur un de ses points ou massifs, une opinion d'artillerie était sûre de l'emporter. Voilà quel avait été, disait-il, son grand secret et sa grande tactique.